Vous écoutez France Culture.
Jeu de société de David Lodge. Dans une adaptation de Juliette Eman. 9e épisode.
Tu t'imagines, Penny, il n'avait jamais fait l'amour comme ça avant.
Vraiment ? Oui. Tu as dit qu'il était marié depuis combien de temps ?
22 ans.
22 ans et toujours dans la position du missionnaire ? C'est presque de la perversion.
Pour tout te dire, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de sexe dans leur mariage ces dernières années.
Ça m'étonne pas. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris ?
Il m'a plu. Dans cette conjoncture précise, Vic Wilcox m'a plu.
Je croyais que tu pouvais pas le supporter. Je croyais que c'était un béotien autoritaire, un affreux phallocrate.
Oui, il m'a fait cette impression au début. En fait, il est pas si mal que ça, quand on le connaît mieux. Et il est loin d'être idiot.
Tout cela ne m'explique pas pourquoi tu as couché avec lui.
Je te l'ai dit, Penny. Il m'a plu ce soir-là. Tu sais comment ça se passe. On se trouve dans un lieu étranger, on prend quelques verres, on fait quelques tours sur la piste de danse.
Ouais, je sais. J'ai fait des cours en université d'été. Mais quoi, Robin ? Un propriétaire d'usine qui n'est déjà plus très jeune.
Directeur général.
Comme tu voudras. C'est presque du viol.
Il n'a pas été violent du tout, bien au contraire.
Je voulais pas dire physiquement, mais psychologiquement. Je crois que tu t'es laissé avoir par l'argent et le pouvoir de cet homme. Il est l'antithèse de tout ce que tu représentes. Quand Wilcox t'a sauté, c'était comme si l'usine violait l'université.
Oh, ne sois pas ridicule, Penny. S'il y en a un qui a violé l'autre, c'est bien moi. L'ennui, c'est qu'il en fait tout un cinéma. Il prétend être amoureux de moi. Je lui ai bien dit que je ne croyais pas à ce concept, mais ça sert à rien. Il n'arrête pas de me téléphoner et de me demander de le rencontrer. Je sais pas quoi faire.
Dis-lui que tu es très attachée à Charles.
L'ennui, c'est que c'est pas vrai. On ne se voit plus actuellement.
Dis-lui que tu es lesbienne. Ça devrait suffire à le décourager.
Mais il sait très bien que je suis pas Gwyn. Il ne le sait que trop.
Qu'est-ce qui mijote dans sa petite tête ? Est-ce qu'il veut t'installer comme sa maîtresse ou quoi ? Tu ferais peut-être bien d'y réfléchir sérieusement.
Il prétend qu'il veut m'épouser. Il est disposé à divorcer et à m'épouser.
Oh là là, il y va fort, hein ?
C'est surtout ridicule, bien sûr.
Et tout ça à cause d'une petite baise ?
Trois, en fait.
La première fois, Vic Wilcox avait éjaculé presque aussitôt. À l'instant même où Robin s'était allongé sur lui en le serrant bien fort. Il avait éjaculé en poussant un grognement sonore, comme un arbre que l'on arrache du sol par les racines. Un peu plus tard, il eut de nouveau une petite érection et put lui donner un orgasme. Mais elle dut avoir recours à un petit massage à l'huile pour le faire éjaculer de nouveau. Il en pleura. De gratitude. D'humiliation. Des deux à la fois, peut-être, elle n'aurait su le dire. Au petit matin, alors que la lumière grise de l'aube commençait tout juste à filtrer à travers les rideaux, elle se réveilla et trouva la main de Vic glissée entre ses jambes. Elle se retourna, s'allongea sur le dos, et encore dans les brumes du sommeil, elle le laissa la prendre à sa manière à lui, sous les couvertures, sans dire un mot. Lorsqu'elle se réveilla la seconde fois, il faisait grand jour, et il était retourné dans sa chambre, ce qui la soulagea infiniment. Mais au petit déjeuner, dans le restaurant, il la regarda par-dessous sa mèche avec une ferveur inquiète de chien battu, répondant à peine à son bavardage, mangeant peu, buvant des quantités de café, fumant ses Marlboro comme un pompier. Et lorsqu'ils remontèrent pour faire leurs valises, Vic suivit Robin dans sa chambre.
Qu'allons-nous faire maintenant, Robin ?
Je jetterai bien un coup d'œil à la vieille ville, pendant que tu traites tes affaires à la foire commerciale.
Je parlais pas de ça. Je voulais dire, qu'allons-nous faire après ce qui s'est passé hier soir ?
Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit, en fait. On a été un peu fous, mais c'était bon.
Bon ? Bon ? C'est tout ce que t'as à dire, c'était merveilleux.
D'accord, c'était merveilleux.
J'ai très bien dormi, pas toi ?
J'ai à peine fermé l'œil, mais c'était merveilleux, surtout la dernière fois. On a eu du plaisir en même temps la dernière fois, n'est-ce pas ?
Ah bon ? Je m'en souviens pas vraiment. Je dormais encore à moitié.
Te moque pas de moi.
Je me moque pas de toi ?
Ça veut rien dire pour toi, j'imagine. C'était qu'une... Comment on dit ? Une représentation d'un soir. Je suppose que t'as l'habitude de faire ça, mais moi pas.
Moi non plus, je n'ai couché avec personne d'autre qu'avec Charles depuis des années. Et je ne vois plus Charles ces temps-ci. Mais bon, c'est pas vraiment ton affaire.
Eh ben alors ? C'était de l'amour.
Non, ça n'en était pas. Puisque je te dis que ça n'existe pas, l'amour. L'amour, ce genre d'amour, c'est une escroquerie littéraire. Une escroquerie publicitaire et médiatique aussi.
Je ne le crois pas. Il faut qu'on en reparle. Je te retrouve pour déjeuner au Plaza. Là où on a mangé hier.
Alors j'ai foutu le camp. J'ai téléphoné à l'aéroport et découvert qu'avec mon billet, je pouvais rentrer à Rummidge dans la matinée en passant par Heathrow. Alors je suis partie.
Sans rien dire à Wilcox ?
J'ai laissé un message au Plaza. Je me sentais pas la force de supporter une discussion sentimentale pendant le déjeuner et de causer de la nuit précédente. Et en plus, je me sentais très coupable de ne pas avoir donné mes cours au département. Je suis rentrée très tôt à Rummidge à cause du décalage horaire. J'ai pris un taxi pour me rendre à l'université et je suis arrivée juste à temps pour mon deuxième séminaire de littérature féminine. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi en bus plutôt contente de moi. Mais bien sûr, quand je suis arrivée au coin de ma rue, il était là à m'attendre.
Pourquoi t'es partie comme ça ?
J'avais des choses à faire à Rummidge. Si j'avais su que c'était si facile, je serais revenue hier soir au lieu de passer la nuit à Francfort. Ça aurait été beaucoup mieux pour tout le monde.
Puis-je entrer ?
Je veux bien si tu y tiens. Mais on ne t'attend pas chez toi ?
Pas encore. Faut que je te parle.
D'accord. À condition qu'on ne parle pas d'amour ou de ce qui s'est passé hier soir.
Tu sais parfaitement bien que c'est de ça dont je veux te parler.
C'est la condition.
D'accord. J'imagine que j'ai pas le choix. Je devrais demander à une femme de ménage de venir faire un peu de nettoyage.
Je ne demanderai jamais à une femme de venir faire mon sale boulot. C'est contraire à mes principes.
T'es pas un homme, alors. Il y a des hommes de ménage, je crois, maintenant.
Je ne peux pas me le permettre.
Je paierai.
J'aime ma maison comme elle est. C'est peut-être le chaos à tes yeux, mais pour moi, c'est un système de classement comme un autre. Je sais exactement où trouver n'importe quoi sur le plancher. Une femme de ménage rangerait tout ça et je serais perdue. Je t'offre un peu de thé ?
Volontiers. Pourquoi t'achètes pas un lave-vaisselle ?
Parce que je n'en ai pas les moyens et non, tu ne m'en achèteras pas un. De toute façon, j'aime bien faire la vaisselle. C'est une sorte de thérapie.
T'as pas l'air d'avoir souvent besoin de cette thérapie.
Quelle toupet ! Ça m'a même pas vexée. J'ai plutôt pris ça comme un bon signe, en fait. Ça voulait dire au moins qu'il n'était pas dans son humeur larmoyante. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'empêcher de penser à ces histoires d'amour et je l'ai branché sur l'aspect commercial de notre voyage à Francfort. Et c'est alors que j'ai eu une sacrée mauvaise surprise. Alors ? Quand est-ce que tu vas l'avoir, ton nouveau petit jouet ?
Oh, dans 6 ou 9 mois, je pense, peut-être 12.
C'est si long que ça ?
Ça dépend. En tout cas, j'espère que ce sera pas dans plus de 9 mois parce que j'ai l'impression que nous allons sortir du creux de la vague. Les affaires vont reprendre l'année prochaine et avec cette nouvelle soufflerie de noyaux couplée au KW, nous serons prêts à affronter un marché en expansion.
J'imagine qu'il va falloir produire plus pour rentabiliser la machine.
Oui, oui, mais on va économiser aussi sur les frais de fonctionnement. Il y aura moins de pannes, moins d'heures supplémentaires pour rattraper les pannes, et bien sûr, je vais pouvoir laisser partir plusieurs hommes.
Que veux-tu dire, laisser partir ?
Ah ben, la nouvelle machine va à elle seule faire le travail d'une demi-douzaine de vieilles machines. Si bien que la plupart des ouvriers qui travaillent sur ces machines vont se retrouver en surnombre.
Mais c'est affreux ! Si j'avais su que ça allait provoquer des licenciements, je me serais jamais mêlé de ça.
Mais c'est stupide. Si on veut survivre comme entreprise, on peut pas se permettre de faire du sentiment pour quelques hommes qu'on licencie.
Du sentiment ? C'est bien à toi de parler de ça. Toi qui as les genoux qui flageolent quand tu entends Jennifer Rush. Toi qui crois être amoureux la première fois que tu baises.
C'est pas la même chose. Je parle affaire, tu comprends pas ?
Je comprends seulement que certains hommes qui ont un boulot aujourd'hui ne l'auront plus dans un an. Grâce à toi, à moi et à Herr Winkler.
Il fallait bien qu'un jour ou l'autre, on remplace ces vieilles machines. On n'arrête pas d'avoir des ennuis avec elles, tant c'est quelque chose.
Tu ne vas pas me dire que Danny Ram travaille sur une de ces machines ?
Je croyais que tu le savais.
Tu vois d'ici, Penny, comme j'ai pu me sentir stupide. Après toute la peine que je m'étais donnée en janvier pour aider Danny Ram à garder son boulot, voilà maintenant que je découvrais que j'avais contribué à le lui faire perdre de nouveau.
C'est dégoûtant. Inutile de te faire du bourreau. Je parie que Wilcox se serait débarrassé de lui de toute façon, dès que t'aurais eu le dos tourné. Le salaud me fait l'impression d'être à dur à cuire.
Dur en surface, mais mou au milieu. Quand il a vu à quel point j'étais bouleversée, il a commencé à faire marche arrière. Et il a prétendu qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de licencier des hommes après tout. Si tout allait bien, a-t-il dit, on pourrait peut-être créer une équipe de nuit. Non mais tu imagines ce que ça peut être de travailler la nuit dans ce trou ? C'est déjà pas de la tarte le jour, mais enfin passons. Ensuite, il a dit qu'il promettait de trouver un autre boulot pour Danny Ram ailleurs dans l'usine.
Rien que pour te faire plaisir ? Et sur le dos d'un autre pauvre type, je suppose.
Exactement, c'est ce que je lui ai dit. Tu joues avec la vie des gens, Vic. Comme si c'était quelque chose qu'on achète, qu'on vend et dont on se débarrasse. Tu m'offres l'emploi de Danny Ram comme une faveur, un pot de vin, un cadeau. Tout comme d'autres offrent des colliers de perles à leur maîtresse.
Je ne te demande pas d'être ma maîtresse. Je te demande d'être ma femme.
Mais tu es devenu fou. Tu as oublié que tu étais déjà mariée.
Je vais divorcer.
Moi, je ne veux plus entendre ces idioties. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, je crois. J'ai tout un tas de dissertations à corriger. Le trimestre se termine demain.
Écoute-moi, mon mariage est mort depuis des années. On n'a plus rien en commun, Marjorie et moi.
Mais qu'est-ce que tu crois que nous ayons en commun, toi et moi ? Pas une seule idée, pas une seule valeur, pas le moindre centre d'intérêt.
On a la nuit dernière.
Oh, arrête ! Je ne veux plus entendre parler de la nuit dernière. C'était juste une petite baise, rien de plus.
Ne dis plus ça, je t'en prie.
On croirait à t'entendre que ça n'était jamais arrivé avant.
Ça ne m'était jamais arrivé à moi avant. Pas comme ça.
Oh, tais-toi, tais-toi. Va-t'en, je t'en supplie. Rentre chez toi.
Quand est-ce que je vais te revoir ?
Je n'en ai aucune idée. Je ne vois pas pourquoi on se reverrait, sauf par hasard. Ce programme stupide est terminé et je n'ai plus à mettre les pieds dans ton horrible usine, Dieu merci.
Je te contacterai.
Laisse-moi tranquille.
D'accord, d'accord, je m'en vais. Quand t'es en colère, tu ressembles à une déesse.
Une déesse ?
C'est ce qu'il a dit. Et Dieu sait ce qu'il voulait dire par là.
Je dois reconnaître, Robin, toute idéologie mise à part. Enfin, ce n'est pas tous les jours qu'une femme se fait traiter de déesse.
Bon, c'est plutôt agaçant ce qui me concerne. Agaçant et gênant. Il n'arrête pas de me téléphoner et il m'écrit tous les jours.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Je ne sais pas. Je raccroche aussitôt et je jette ses lettres sans les lire.
Pauvre Vic.
Inutile d'avoir pitié de lui. Tu ferais mieux de dire « pauvre Robin ». Je suis incapable d'avancer dans ma recherche.
Il a le mal d'amour, le pauvre Vic. Un de ces jours, il va venir jusque chez toi te jouer la sérénade.
Oui, il va passer un enregistrement de Jennifer Rush sous ma fenêtre. Non, je t'assure, c'est pas drôle.
Est-ce que sa femme est au courant ?
Non, je ne crois pas. Mais elle doit se douter de quelque chose. Que puis-je faire ? Un de ces jours, je vais voir arriver Madame Wilcox dans mon bureau, abrutie par le Valium, me suppliant de ne pas lui enlever son mari. J'ai l'impression d'être embarquée dans un roman réaliste classique régi par les lois de la causalité et de la morale. Comment puis-je m'en sortir ?
J'en ai assez comme ça.
Oh, excuse-moi.
Non, je veux dire, j'en ai assez de cette chaleur. Je vais prendre une douche.
Je te suis. Mais comment puis-je faire, Benny?
Tu ferais bien de foutre le camp, encore une fois.
Robin entassa donc ses livres, ses notes et son ordinateur BBC à l'arrière de sa Renault, ferma sa petite maison et alla passer le reste des vacances de Pâques chez ses parents, dans leur maison face à la mer sur la côte sud. Elle demanda à la secrétaire du département de ne communiquer son adresse à personne, sauf en cas d'extrême urgence, lui expliquant qu'elle souhaitait avancer dans sa recherche loin de toute distraction. Elle usa du même prétexte auprès de ses parents, quelque peu surpris de l'avoir débarqué à l'improviste et pour une si longue visite. Durant cette période, Robin passa le plus clair de son temps dans sa chambre à essayer de finir son livre sur la représentation de la femme dans le roman du XIXe siècle. C'était sa seule chance d'obtenir un poste permanent quelque part. Elle avança beaucoup et à la fin des vacances, elle avait fait les trois quarts de son premier jet. Pendant ce temps-là, Vic Wilcox passait des jours difficiles à ruminer son amour non partagé. Pendant la semaine, ça allait encore car il pouvait se distraire avec le travail. Il accéléra plus que jamais son programme de rationalisation chez Pringle, harcela ses directeurs impitoyablement, présida d'interminables réunions, doubla la fréquence de ses visites surprises dans les ateliers. Mais la journée de travail, même pour quelqu'un comme Vic, ne peut dépasser une certaine limite. Il lui restait infiniment trop d'heures à ruminer. Le trajet du matin et du soir, les soirées et les week-ends à la maison, et surtout ces longues heures du petit matin où il restait éveillé dans la chambre plongée dans l'obscurité sans pouvoir s'arrêter de penser à Robin Penrose et à leur nuit d'amour. Mais plus que jamais, il s'enfermait dans son silence à la maison. Il était sujet aux distractions. Dans la cuisine, il se mettait à laver des tasses que l'on venait de laver et d'essuyer. Il allait chercher un outil et une fois arrivé dans le garage, il ne se rappelait plus ce qu'il voulait en faire. Un soir, il monta pour changer de pantalon et commença mécaniquement à se déshabiller et à se mettre en pyjama. Ce ne fut qu'au moment de se mettre au lit qu'il s'arracha à sa rêverie.
Qu'est-ce que tu fais, Vic?
Je me couche de bonne heure.
Mais il n'est que 8h30.
Je suis fatigué.
Tu dois être malade. Tu veux que j'appelle le médecin?
Non, je suis simplement fatigué.
Il y a quelque chose qui ne va pas, Vic? T'as des ennuis au travail?
Non, tout va bien au travail. L'usine tourne à ravir. On va faire des bénéfices ce mois-ci.
Et ben alors, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus le même depuis que tu es allé en Allemagne. Tu crois pas que t'as attrapé un virus ou je ne sais quoi?
Mais non, j'ai pas attrapé de virus.
Je vais te chercher une aspirine.
Raymond, tu veux baisser la stéréo? Papa ne se sent pas bien.
Ouais!
Le dimanche suivant, Vic reconduisait son père chez lui le soir après le thé.
Marjorie s'inquiète à ton sujet, mon garçon.
Pourquoi?
Elle dit que tu n'es plus toi-même. Et elle dit vrai.
Je vais bien, papa.
Tu n'es pas une grossesse, au moins.
Quoi?
Tu ne sors pas avec une jeune grossesse, par hasard. J'ai vu ça bien des fois, entre patron et secrétaire. Ça se passe sans arrêt au travail.
La secrétaire est une emmerdeuse.
Je suis content de te l'entendre dire. Je n'en vaux pas la chandelle, crois-moi. J'ai vu ça bien des fois, des types qui quittent leur femme pour une jeune gonzesse. Ils ont tous fini complètement fauchés, en force d'entretenir deux familles sur une seule paille. Ils ont perdu leur maison, leurs meubles, La femme à tout prix. Pense-y, Vic. La prochaine fois qu'une jeune essaie sa volée trop fait de l'œil. Oh, tu peux rire. Tu ne serais pas le premier à te ridiculiser à cause d'une jolie frimousse. D'un petit derrière bien tourné. Ça ne dure jamais. Malheureusement, jamais.
C'est pas comme les meubles.
Sûrement pas.
Marjorie, quant à elle, était visiblement troublée. Le shopping devint chez elle une véritable manie. Elle revenait tous les jours avec une robe neuve ou une nouvelle paire de chaussures et la plupart du temps les échangeait dès le lendemain. Une fois, elle revint de chez le coiffeur avec une nouvelle coiffure et pleura des heures en voyant le résultat. Elle commença à suivre un régime fait uniquement de pamplemousse et l'abandonna au bout de 3 jours. Elle s'acheta un vélo d'intérieur et on l'entendait souffler et haleter derrière la porte de la chambre d'amis où elle l'avait installée. Elle loua une table de bronzage chez Riviera qui la lui livra à domicile et se fit griller en maillot 2 pièces, se protégeant les yeux avec des lunettes foncées. Mais, redoutant mortellement de se faire trop rôtir, elle serrait dans la main avec fébrilité un minuteur de cuisine au cas où l'interrupteur automatique tomberait en panne. Vic comprit que tous ses efforts ne visaient qu'à le séduire et qu'elle suivait probablement les conseils d'un magazine féminin de pacotille. Cela le touchait, certes, mais il restait malgré tout lointain et indifférent. À la périphérie de son obsession, Marjorie le regardait en silence avec des yeux remplis d'affection et d'inquiétude, comme un chien devant le foyer. Il sentait qu'il n'avait qu'à tendre la main pour qu'elle lui saute dessus et lui lèche le visage. Mais il se sentait incapable de le faire. Au petit matin, quand il était réveillé, il ne cherchait plus la chaleur animale de son corps douillet. Il restait au bord du matelas, le plus loin possible de cette masse épaisse, gavée de valium, qui grognait et geignait dans son sommeil, se demandant bien comment rétablir le contact avec Robin Penrose.
C'était « Jeux de société » de David Lodge, dans une adaptation de Juliette Eman. 9e épisode. Traduction Yvonne et Maurice Couturier. Avec Féodor Atkin, le narrateur. Sophie Guédon, Robin Penrose. Philippe Bautier, Vic Wilcox. Marie-Christine Letor, Marjorie Wilcox. Jean-Claude Sachaud, Monsieur Wilcox Père. Emmeline Bayard, Penny Blake, Valran de Normandie, Raymond Wilcox. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son et mixage, Claire Levasseur. Assistance technique et montage, Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Jeux de société de David Lodge est publié aux éditions Rivage.